Bon, nous avons jusqu'ici déroulé la vie des prophètes et leurs livres à travers l'histoire d'Israël. Une histoire d'Israël qui, depuis David, devient d'abord un peu et puis davantage historique au sens moderne du terme. Parce que dans l'histoire d'Israël, il y a évidemment toute une manière de la lire qui ne colle pas avec les événements vus de manière tout à fait extérieure, apparente, comme dirait la tradition hébraïque, parce que ce que nous voyons, ce que nous vivons, c'est l'apparence des choses, tandis que l'intériorité des choses, sa vérité, c'est-à-dire son symbole, ça c'est la véritable réalité. Et donc, ce que désire faire la Bible, c'est dire la réalité profonde qui ne colle pas nécessairement avec le déroulement des événements tels que nous les voyons généralement. Voilà. Alors, nous avons vu approcher la menace. Nous avons vu la Syrie qui a détruit d'abord le royaume du Nord, la ville de Samarie, et Jérusalem a recueilli un certain nombre de rescapés du Nord, mais la menace était toujours présente, et effectivement, la Syrie, avec Sargon II, grignotait le territoire, pour le prendre, évidemment. Et puis c'est la Syrie, cette fois-ci, c'est la Syrie qui a été prise par les Assyriens et finalement Jérusalem s'est trouvée assiégée au temps de Sennachérib en 701. Et là, c'était vraiment la limite. Et on peut comprendre que Jérusalem, se voyant ainsi menacée de très près, et puis tout d'un coup, délivré d'une manière étonnante, parce que Sennachérib a levé le camp en une nuit, et ils sont repartis vers le nord. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, peut-être plusieurs événements à la suite les uns des autres. Est-ce qu'il y a eu, comme certains le pensent, une peste qui s'est déclarée dans les armées du Nord, dans les armées mésopotamiennes? Est-ce qu'il y a eu un traité secret qui s'est fait le soir? Est-ce que Sennachérib a été rappelé au Nord, dans son pays, parce qu'il y avait des dissensions et des bagarres? Tout ça est possible. Mais ce que la tradition d'Israël a gardé, c'est que Jérusalem, en une nuit, a été délivrée. Et c'est devenu vraiment une prise de conscience de la présence de Dieu dans l'histoire. Il y a un petit livre qui a été composé, c'est une thèse d'un membre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Une thèse qui a été défendue en 2005 à Notre-Dame, au Studium de Notre-Dame de Vie, et justement qui montre bien, c'est fort intéressant, parce qu'il montre bien comment le centre du livre d'Isaïe se trouve là où Isaïe n'est pas lui-même, là où il copie le livre des rois, c'est-à-dire la maladie d'Ézéchias, et puis sa guérison soudaine, le siège de Jérusalem, et puis la délivrance soudaine. Et c'est vrai que ce texte en prose, le dernier chapitre de ce qu'on appelle généralement le premier Isaïe, effectivement celui qui a donné le nom au livre, et c'est vrai qu'il y a eu à la fois pour le roi et pour le peuple, une libération étonnante qui a fait réfléchir. Et ce texte est vraiment, sur le plan de la rédaction cette fois-ci, ce texte des chapitres 36 à 39 est vraiment important. Et quand on fait comme l'a fait Henri Valençon, quand on fait une comparaison entre les expressions telles qu'elles sont, elles sont répandues à travers tout le livre, ça devient extrêmement précis. Et on voit que ce livre d'Isaïe a été extrêmement bien étudié pour en arriver à la rédaction que nous avons maintenant. Parce que effectivement, le livre d'Isaïe a été composé, je dirais, en trois vagues, disons comme cela. D'abord, sous Akaz et Ézéchias, sous le règne. Ça, c'est le véritable Isaïe. Mais la composition du livre date évidemment d'après l'exil. Ce n'est pas le prophète lui-même qui a rédigé ce texte tel qu'il est maintenant. Mais vous avez constamment dans ce premier livre l'histoire telle qu'elle se déroule sous nos yeux et comment Dieu intervient constamment dans cette histoire pour sauver le peuple, mais en lui dévoilant son péché. C'est ce que nous avons trouvé également chez Ézéchiel. Ézéchiel, c'est le révélateur de l'espérance, mais à travers le désespoir. Parce que Ézéchiel a été écrit au moment où Jérusalem lui-même, elle-même, a été détruite. Et nous avons vu que le chapitre 24e d'Ézéchiel était aussi le pivot de la rédaction du livre. La deuxième partie du livre d'Isaïe, que l'on appelle généralement le livre de la consolation, parce qu'il commence par ces mots, « Nachamu, Nachamu, ami, consolez, consolez mon peuple », dit le Seigneur. C'est une partie qui a été composée aussi, comme Ézéchiel, pendant l'exil, mais vraisemblablement à Jérusalem, tandis que Ézéchiel était parmi les déportés dans le nord, en Mésopotamie. Et l'histoire n'est plus une histoire qui se déroule sous nos yeux. Ce n'est plus le film. C'est une sorte de réédition, revisitation, relecture de l'histoire, un approfondissement, une véritable réflexion. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et effectivement, comme le dit justement cette thèse, c'est à la lumière de cette libération soudaine d'Ézéchias et de Jérusalem que on relit l'histoire. Comment Dieu traverse-t-il l'histoire des hommes? Cette histoire de violence, comment Dieu est-il présent aussi bien dans la violence, cette violence qui sert dans la rédaction du livre, qui sert d'instrument de Dieu, instrument de la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu utilise les événements pour vivre un salut. Qu'est-ce que c'est qu'un salut? Le salut, c'est la restauration de l'homme dans sa dignité, non seulement de l'homme individuel, mais de l'humanité comme corps. Et à travers l'histoire d'Israël. Ça, c'est ce qu'Israël a compris et ce que les prophètes ont voulu dire. Comment Dieu, non pas intervient de l'extérieur, mais comment Dieu utilise-t-il, en quelque sorte, si on peut dire, utiliser, c'est un mot difficile à employer ici, parce que Dieu ne se sert pas des choses pour un but, comme on se sert d'un instrument pour réaliser une opération, non. Mais Dieu est présent et assume la réalité des hommes, mais pour la transformer de l'intérieur. Une transformation qui ne se voit pas toujours, qui n'éclate pas, mais que l'on perçoit de l'intérieur dans un éclatement, disons, mystique, qui est la réalité de l'éclatement, bien entendu. Et donc ce second Isaïe a été composé vraisemblablement en deux vagues, d'abord du chapitre 40 au chapitre 48, et puis du chapitre 49 au chapitre 55. Et j'ai mis en tableau un peu synoptique ce que vous avez aux pages 99 et 100 et 101 dans le syllabus. Comment Dieu manifeste-t-il son salut? Et comment l'homme découvre-t-il, à travers ses prophètes, quel est le jugement de Dieu? Comment Dieu juge-t-il les hommes? Et c'est pourquoi j'ai intitulé, après le prologue d'un côté et l'épilogue de l'autre, donc une introduction et une conclusion, nous avons le déploiement du salut de Dieu. Dieu juge. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu prend acte des choses, de la réalité telle que les hommes la voient et la font. Il en prend acte. Mais il n'est pas complice de cette histoire qui est souvent une histoire de violence et de profit. Il n'en est pas complice. Il pénètre cette histoire. Mais il reste présent à l'intime des hommes jusqu'à ce qu'ils découvrent que leur voie est perverse. Et c'est pourquoi cette partie d'Isaïe, chapitre 40 à 55, se déroule comme un grand procès. Dieu est le souverain juge, je prends le terme, c'est-à-dire il accueille, il surplombe la réalité telle qu'elle se vit parmi les hommes. Il est juge, mais comme le jugement de Dieu est toujours un jugement de salut, il essaie de tourner les consciences humaines de telle manière qu'elles prennent acte également de ce qui se passe et qu'elles se convertissent, comme on dit. Qu'au lieu de poursuivre leurs idoles, mes idoles généralement sont le pouvoir, le plaisir, le profit, nous dirions aussi la science, la technique, ça ce sont les réalités que l'on appelle des idoles, c'est-à-dire des fabrications d'hommes. Ça ne veut pas dire que les idoles sont mauvaises, les idoles remplacent bien leur rôle de chemin vers une présence divine. Mais ces idoles sont caduques, elles ont toujours les limites de l'homme. Et justement, à travers l'histoire des hommes, qui était une histoire de violence jusqu'au moment des Babyloniens, qui avaient pris le relais de la Syrie, les Babyloniens étaient aussi des gens violents. Ils prenaient les villes en les détruisant et en déportant les populations. Et voilà que Babylone, donc qui avait succédé, mais qui était grande et orgueilleuse, comme le disent les textes, Babylone qui avait succédé à Ninive et à la Syrie, voilà que Babylone tombe, sans coup férir. Et Babylone tombe parce que un illustre inconnu, un Mède qui avait pris la royauté ou l'empire perse, aussi, sans coup férir, mais avec quelques escarmouches, bien entendu, vient prendre Babylone. Et ça devient un signe pour le prophète. Pourquoi? Mais parce que les agissements de Cyrus sont très différents des agissements des rois précédents, aussi bien des Assyriens que les Babyloniens. Alors qu'ils régnaient, eux, par la violence, voici que notre ami Cyrus travaille d'une manière toute différente. Il négocie avec les populations, et il ne les déporte plus. Et même, il leur demande de conserver leur Dieu, leur protecteur. Lui-même tient la main de Marduk, qui est son Dieu, pour contacter toutes les populations et pour prendre un pouvoir, mais un pouvoir qui n'est pas dominateur. Et justement, le prophète, celui qu'on appelle souvent le deuxième Isaïe, le prophète voit là un signe de la présence divine. Car Dieu agit à travers les hommes. Il n'agit pas par des coups qui détruiraient les lois qu'il a données pour le monde et la conduite de ce monde. Il travaille toujours à travers les volontés humaines. Et donc il y a un changement de manière de vivre. Un changement surtout de la manière de voir le pouvoir. Ici, nous arrivons vraiment au pouvoir-dialogue. Au lieu de pouvoir-domination par la force, c'est le dialogue. Et donc voilà, c'est cette histoire-là qui est racontée, mais qui est racontée dans une réflexion entre le chapitre 40 et le chapitre 55 du livre d'Isaïe. C'est un texte dont on n'a pas encore fini de voir la composition, comment ce texte s'est-il composé petit à petit. Difficile à dire, mais il y a des repères importants. Comme on voit généralement tout le livre d'Isaïe dans le séminaire Isaïe, le prophétisme, je ne peux pas m'étendre beaucoup sur ce texte, mais nous allons quand même essayer de parcourir dans ce texte quelques points importants pour nous rendre compte de cette manière d'agir de Dieu à travers des hommes. Est-ce que Dieu dépend des hommes ? Mais on le dirait. On le dirait. Il dépend des hommes au point qu'il les rend intelligents et libres dans la conduite même des affaires humaines. Alors nous avons donc ici, vous voyez, un prologue qui est pratiquement le chapitre 40e. On ne sait pas très bien qui parle. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Qui est-ce qui parle ? Un prophète, bien sûr, à l'intérieur même de l'exil, pendant que les gens sont déportés, mais vraisemblablement à Jérusalem, parce que Jérusalem va jouer un grand rôle dans ce texte, jusqu'à la fin du livre d'Isaïe. La première partie du livre d'Isaïe, de 1 à 39, montrait Jérusalem comme femme infidèle. Je vous rappelle le chapitre 5, que je chante mon bien-aimé à son chant d'amour pour la vigne. Il attendait un fruit merveilleux, et ce n'est que du raisin, à peine grandi, tout desséché. Et donc, il y a un salut de Jérusalem qui est en marche à travers ce que vivent les hommes. Et il y a des gens qui conduisent le peuple. Il y a les rois, il y a les prophètes, éventuellement les prêtres, mais surtout les prophètes. Parce que les prophètes voient clair. Consolez, consolez mon peuple, je suis au chapitre 40e, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Et au cœur de Jérusalem, Jérusalem va être considéré constamment comme un personnage féminin. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est fini, que son péché est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour tous ses crimes. Alors que dans la première partie d'Isaïe, la femme était infidèle, voici qu'elle a été punie. Elle s'est sentie punie. Son service, son esclavage est terminé. Et son péché est expié. Ah, ici c'est important. le pardon ne dépend pas de la conversion. La conversion est un signe que le pardon est donné. Fais-nous revenir, c'est Jérémie qui parlait, fais-nous revenir et nous reviendrons. Le pardon est toujours grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'agit le jugement de Dieu, à travers le pardon. Que son service est fini, que son péché est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour ses crimes. Nous avons déjà vu cela, que quand Dieu punit, il fait prendre conscience que l'agir de l'homme est mauvais et qu'il faut changer. Une voix crie. Quelle est cette voix? On ne l'a pas dit. C'est pas dit. Préparez dans le désert une route pour le Seigneur. Là, le désert, c'est le chemin par lequel les rapatriés reviendront à Jérusalem. Tracez droit dans la steppe un chemin pour notre Dieu, que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Lisez que les difficultés, les obstacles vont cesser, que tout précipice deviendra une plaine et les escarpements une vallée. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et toute chair la verra. Qu'est-ce que c'est que la gloire du Seigneur, sinon la manifestation de son amour? Mais d'un amour toujours discret, toujours caché. La gloire du Seigneur se révélera et toute chair la verra. Toute conscience pourra en prendre quelque chose qui va le changer. Car la bouche du Seigneur a parlé. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce livre? Comme le souligne très bien le père Beauchamp, Dieu dit qu'il parle. Il dit qu'il parle et qu'il faut découvrir ce qu'il dit à travers les événements et à travers les hommes. Il ne dit rien d'autre que cela. Il dit qu'il est présent de manière cachée dans les événements parce qu'il est présent au cœur de l'homme. Une voix ordonne, toujours une voix, ordonne, qui? Et je répondis, voilà un « je hein, » anonyme, et je répondis, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Ah voilà. La chair, c'est-à-dire notre réalité humaine, ça ne dure pas, hein. Toute chair, hein, il vient de dire toute chair verra la gloire du Seigneur, mais il commence d'abord, hein, toute chair commence d'abord par voir sa pauvreté, sa sécheresse. Toute chair est comme l'herbe, et sa délicatesse est celle de la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, lorsque le souffle du Seigneur passe sur elle. Oui, le peuple, c'est l'herbe. L'herbe sèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeurera toujours. Voilà. Dieu dit qu'il parle et que sa parole demeure. Et que sa parole, c'est le salut des hommes. Et que les hommes n'aiment pas ce salut. Ils préfèrent leur salut idolâtre. Ils préfèrent leur construction, leur manière de voir humaine. Et Dieu va s'en servir, disons comme ça, va être au service de cette réalité humaine, mais pour donner le salut, c'est-à-dire pour rendre aux hommes leur dignité humaine. Et rendre aux hommes leur dignité humaine, c'est leur insuffler justement l'idée ou le dessein de Dieu. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dit aux villes de Juda, « Voici votre Dieu. Voici le Seigneur qui vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Le prix de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Tel un berger qui fait paître son troupeau, recueille dans son bras les agneaux, les met sur sa poitrine, conduit au repos, les brebis mères. Ah. Voilà le Seigneur qui arrive comme un berger. Le thème avait déjà été traité, très peu par la première partie d'Isaïe, mais par Jérémie 23 et Ézéchiel 34. Mais derrière ce personnage du Seigneur bon berger, il y a le bon berger Cyrus. Cyrus devient l'expression du Seigneur berger. Justement parce qu'il agit avec douceur et non pas avec violence. Et alors on va mettre en évidence, voyons, le prophète réfléchit. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer et évalué les dimensions des cieux, jaugé toute la terre au boisseau, pesé les montagnes au poids et les collines à la balance? Qui aurait pu avertir l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur est présent à l'intime des événements. Voici, les nations sont comme une goutte au bord d'un seau. Elles valent un grain de poussière dans la balance. Voici, les îles pèsent comme une poudre fine. Le Liban ne suffit pas au bûcher, ni ses bêtes ne suffisent à l'Holocauste. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Elles valent pour lui le néant et le vide. Ce pouvoir que les hommes convoitent et qu'ils mettent en avant, pour Dieu, c'est rien du tout. Et c'est cela qu'il faut découvrir. Et justement, Cyrus a découvert quelque chose en se mettant au service des nations conquises, au lieu de les dominer. Et alors, nous avons constamment, et c'est le procès, Dieu face aux idoles. Dieu, c'est toute la vérité, mais elle est cachée, il faut la découvrir. Et les idoles sont toutes ces réalités humaines que l'homme poursuit et qui passent, toutes fleurs et comme l'herbe. Et donc, c'est une sorte de grand procès de l'histoire. Dieu surplombe, il a d'un côté les nations, de l'autre côté Israël. Israël n'est pas fidèle à l'alliance, car Dieu a fait alliance avec Israël. Mais Israël n'est pas fidèle à l'alliance parce qu'elle poursuit, comme les nations, elle poursuit des idoles. Les nations, d'autre part, les nations poursuivent leurs idoles humaines. Leurs œuvres faites de main d'homme. Qui est-ce qui va voir la vérité ? Eh bien, ce qui va se passer dans toute cette histoire, dans ce drame, ce qui va se passer, c'est que Dieu, qui domine les nations, qui voit bien que les nations agissent par la violence, Dieu est capable de trouver parmi ces nations un homme, Cyrus, qui va être appelé le serviteur de Dieu, un homme qui voit clair. Alors qu'il est pris au milieu des nations païennes. Et il voit tellement bien clair qu'il va sauver Israël. Israël qui est infidèle. Et à travers Israël, Dieu, Israël, il y a aussi un homme, ce fameux serviteur. Le serviteur désigne dans cette partie d'Isaïe à la fois Israël, Cyrus et le prophète. Ce prophète anonyme qu'on va appeler justement le serviteur et que dans la tradition chrétienne on va appeler le serviteur souffrant. Mais pour le juif, ce serviteur c'est bien sûr Israël. Israël personnifié. Eh bien, il y a cet homme qui par sa vie exemplaire va non seulement sauver son peuple, en tout cas interpeller son peuple pour qu'il reçoive le salut du Seigneur, mais il va aussi être un instrument pour les nations. Et c'est ça ce grand procès. Dieu domine l'histoire. L'histoire est incertaine. Les hommes ne savent pas ce qu'ils vivent. Et ils doivent découvrir qu'à l'intérieur de ce qu'ils vivent, il y a une présence divine. Et que cette présence va susciter un salut si l'humanité veut bien le découvrir. Et comme l'humanité ne le découvre pas, il y a des figures pour dire cette réalité. Et ces figures, c'est le serviteur et son peuple, Cyrus, d'autre part, qui va sauver Israël, alors que Israël sauve les nations. C'est le triomphe de la présence divine à travers la réalité humaine. Mais bien sûr, il y a beaucoup de tués. Dieu ne peut pas sauver en violentant l'homme. Il ne peut sauver que de l'intérieur. Voilà tout le drame. Et c'est ce qu'on appelle donc le dessein de salut de Dieu, qui est la providence toute puissante, telle qu'elle va s'exprimer dès le début, dans le chapitre 41, 41 à 44, ce jugement de Dieu, c'est la découverte de la présence de Dieu au milieu des vicissitudes humaines. Je vous lis quelques lignes du chapitre 41. D'abord, fin de 40, et puis vous verrez comment il embraye au chapitre 41. « Pourquoi dis-tu, Jacob, affirmes-tu, Israël ?» Donc, c'est une interpellation du peuple. « Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. » Il m'a abandonné. Hein? « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, et son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur réveillent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles, ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Voilà l'ouverture. Et puis, chapitre 41, interpellation maintenant des nations païennes. Toujours les prophètes interpellent les nations à travers le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est toujours témoin de la présence divine, même quand il est infidèle. Et les nations sont aussi témoins de la présence divine, même quand elles sont infidèles et qu'elles massacrent Israël. Faites silence devant moi, que les peuples renouvellent leur force. Les îles sont souvent, à l'instar de la ville de Tyr, qui était une ville très commerçante en face du port de Tyr. Les îles sont les îles commerciales. C'est la réalité du commerce. Et qui dit commerce dit aussi finance. Donc les îles. Qu'ils s'avancent pour parler, qu'on paraisse ensemble en justice, vous voyez, le procès qui commence. Qui a suscité de l'Orient celui que la victoire appelle à chaque pas, lisez Cyrus. Qui lui offre des nations et abaisse les rois. Son épée les pulvérise et son arc les disperse comme la paille. Il les chasse et s'avance paisible. Ses pieds n'effleurent pas la route. Voilà comment on vous décrit Cyrus, qu'on n'a pas encore nommé. Quel est l'auteur de cette geste, sinon celui qui appelle les générations dès l'origine? Moi, Seigneur, qui suis le premier et serai avec les derniers. Dieu domine absolument cette histoire. Il la pénètre. Les îles le voient et prennent peur. Les confins de la terre tremblent. Ils approchent, ils sont là. Un homme aide son compagnon. Ils se disent l'un à l'autre, courage. Le fondeur encourage l'orfèvre. Le polisseur au marteau encourage le batteur d'enclume. il dit du plaquage, il est bon, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'il ne bronche pas. Traduit en termes d'aujourd'hui, réflexe sécuritaire. L'homme veut sa sécurité, mais c'est ramener les choses à soi. Toi, Israël, mon serviteur, vous voyez, c'est Dieu qui prend la parole. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi qu'aux confins de la terre j'ai saisi et que du bout du monde j'ai appelé, toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te font la guerre. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je te saisis par la main droite, je te dis, ne crains pas, moi, je viens à ton secours. Et ce sont juste les termes mêmes que nous trouvons dans le grand cylindre de Cyrus. Cyrus qui a raconté aussi son histoire. Et justement, Marduk l'a saisi par sa main droite. Ici, c'est Dieu, le Seigneur, l'unique, qui saisit Israël par sa main droite. Et cette sorte de collusion entre la réalité de l'histoire et la présence divine. Et c'est cela qui est à découvrir. Et alors, pour faire découvrir cela à Israël, de quoi parle-t-on ? Ben, on va parler de l'Exode, tiens. On va montrer comment, à travers les plaies d'Égypte, c'est-à-dire tous ces obstacles que l'Égypte rencontre habituellement, à travers ces plaies d'Égypte, Dieu est présent. Dieu est présent. Il fait sa Pâque. C'est-à-dire qu'il passe au-dessus des obstacles. Présentez votre défense, dit le Seigneur. Je suis au chapitre 41, verset 21. Prononcez vos plaidoiries, dit le roi de Jacob, qu'il s'avance pour nous révéler ce qui arrivera. Le passé, qu'en avait-il révélé, pour que nous y fassions attention, ou bien proclamez-vous des choses à venir, pour que nous en sachions l'issue. Si vous voulez savoir ce que sera l'histoire, regardez ce qu'elle a été. Vous verrez la même réalité. Et comme Dieu se cachait dans l'histoire des Hébreux sortis d'Égypte, il se cache dans la nouvelle histoire, que Cyrus va dominer pendant un certain nombre d'années. Et je continue au verset 25 du chapitre 41. Je l'ai suscité du nord. Il s'agit de Cyrus. Je l'ai suscité du nord pour qu'il vienne. Du levant, je l'ai appelé par son nom. Il a piétiné des satrapes comme de l'argile. Comme un potier pétrit la glaise. Or, qui pétrit la glaise, sinon Dieu, qui fait l'homme ? Qui l'avait révélé jadis, pour qu'on le sache depuis longtemps, pour qu'on dise c'est juste ? Mais personne n'a rien révélé, mais personne n'a rien proclamé, mais nul n'a entendu vos paroles. D'avance, j'avais dit à Sion, les voici. À Jérusalem, j'avais envoyé un message de bonheur. Je regardais. Mais personne, et de leur part aucun donneur d'avis que je puisse interroger et qui me donne une réponse. Tous ensemble, ils ne sont rien, néant que leurs œuvres, du vent et du vide, leur statut. Tous poursuivent des idoles. Voici mon serviteur, que je soutiens. Mon élu, que préfère mon âme. J'ai mis sur lui mon esprit. Ça nous rappelle Ézéchiel 36. pour qu'il apporte aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans les rues, il ne rompt pas le roseau broyé, il n'éteint pas la flamme vacillante. Fidèlement, il apporte le droit, il ne vacille ni n'est broyé, jusqu'à ce que le droit soit établi sur la terre, car les îles attendent ses instructions. De qui s'agit-il ? De Cyrus, d'Israël, de l'un et de l'autre. De tout qui entend cette parole au fond de son cœur. Ainsi parle le Seigneur Dieu, lui qui a créé les cieux et les a déployés. Voilà l'avantage du Seigneur sur les idoles, c'est qu'il est créateur. Il a créé la vie, et jamais personne n'a pu créer la vie. Les hommes utilisent la vie, mais ils ne la créent pas. Et c'est ça qui donne sa supériorité. Qui a donné l'haleine au peuple qui l'habite, et le souffle aux êtres qui s'y meuvent ? Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai formé, je t'ai désigné comme alliance du peuple et lumière des nations. De qui s'agit-il ? De Cyrus ? D'Israël ? D'un prophète ? De tout qui se découvre dans cette description. Ça, c'est la puissance de la réflexion de ce prophète. C'est qu'il universalise tout. Il ne désigne pas quelqu'un en particulier, mais à travers des personnages concrets, il désigne son action. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et du cachot ceux qui habitent les ténèbres. Moi, dont le nom est le Seigneur, je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Les premiers événements, les voilà arrivés, j'en prédis de nouveau. Avant qu'ils ne germent, je vous les proclame. Et alors, oui. En chapitre 41 à 44, nous avons ce jugement de Dieu qui s'exerce à travers la parole des prophètes. Et on ne sait jamais si c'est le prophète qui parle ou si c'est Dieu qui parle. C'est Dieu dans son prophète. Il faut avoir le regard prophétique, c'est-à-dire le regard profond, pour découvrir à travers les événements et à travers les personnes où est l'action de Dieu. Ce discernement qu'on appellera plus tard le discernement de la sagesse, il se fait par le prophète qui a reçu l'Esprit du Seigneur. Et alors on parle déjà d'abord de l'aveuglement du peuple, vous avez ça au chapitre 42e, et puis déjà de la libération d'Israël. Dieu est essentiellement celui qui rend libre. Maintenant, je lis le début du chapitre 43, « Maintenant, ainsi parle le Seigneur, ton Créateur, ô Jacob, celui qui t'a formé, Israël, ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Mais il a aussi appelé Cyrus par son nom. « Si tu passes par les eaux, je serai avec toi, je serai avec toi. » Non pas je t'épargnerai de passer les eaux. Par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas et la flamme ne te consumera pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Le jugement de Dieu est jugement de salut. Et déjà, Babylone, on en prédit la destruction. De même que Il a fallu passer à travers la mer, puis à travers le désert, pour arriver en terre promise. Ainsi, il faut passer à travers le malheur, à travers la déportation, à travers l'esclavage, pour arriver à la découverte de Dieu avec. Il est avec. Maintenant, je suis au chapitre 44. Écoute, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel, qui t'aide. Sois sans crainte, Jacob, mon serviteur, Yeshurun que j'ai choisi. C'est un terme qui est repris au Deutéronome, Yeshurun, mon bien-aimé en quelque sorte. Car je répandrai de l'eau sur le sol assoiffé, des flots sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur ta postérité. Pourvu que tu découvres cette présence de Dieu en toi, absolue. Mais si elle est absolue, elle est purement gratuite. Et nous arrivons, ça c'est le chapitre 44, nous arrivons au cœur, au chapitre 45 à 48, à la gratuité de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est son ajustement à l'homme pour que l'homme s'ajuste à la manière de faire de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. On est passé du jugement, c'est-à-dire constat des événements, Dieu présent à tous les événements, au chemin fait par Dieu à travers ces événements. C'est-à-dire cette opération d'ajustement réciproque. Et c'est ce que vous avez, mais toujours à travers ces discours sur l'idolâtrie, sur l'idole qui n'est rien du tout. Fabrication humaine, hein, on sculpte, on ajuste hein, ces opérations humaines pour faire une statue. Attention, hein, jamais personne n'a adoré la statue. On adore la réalité que cette statue symbolise, hein, qu'elle allégorise en quelque sorte. Ce qu'elle signifie pour celui qui la fabrique. Mais il la fabrique avec les modèles qu'il a dans sa tête. Et il ne fabrique pas une idole avec la réalité de Dieu, car Dieu, il ne fabrique pas de la même manière, il donne la vie. Il fait exister. Et c'est pourquoi vous avez tout le temps hein, ces reprises du monothéisme et cette discussion sur les idoles. Et donc vous avez la satire contre l'idolâtrie, hein, qui est une caricature, qui vient probablement hein, de plus tard, de beaucoup après, un siècle ou deux après, mais qui a été insérée là parce qu'on voit bien, hein, pour ridiculiser la fabrication des idoles. C'est-à-dire la fabrication de tout ce que nous faisons. Le pouvoir. Les élections. On veut vraiment se mettre, parce qu'on a raison, évidemment. Et quand on a raison, les autres ont tort, alors qu'ils peuvent avoir raison aussi. Voilà, c'est tout ce processus humain hein, qui est mis en évidence dans ces idoles. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans tout cela? Il est là. Il est là. Donc ne crains pas, il est là. Et il est tellement bien là que les idoles vont s'effondrer. Et effectivement, le pouvoir a un terme. Il est limité. Babylone va être détruite, c'est-à-dire sa puissance, parce que Babylone va rester Babylone avec ses grands jardins. Le maintenant du salut. Le maintenant du salut, c'est cette présence de Dieu à l'intime des réalités humaines. Et donc ne crains pas. Le mal est nécessairement limité. C'est une des grandes idées que vous retrouvez chez les prophètes. Quand le mal a atteint son comble, il ne fait plus rien. Il a terminé son travail. Mais Dieu est présent dans celui qui est la victime, qui peut mourir. Mais Dieu est présent. Il est le maître de l'avenir. chapitre 46, verset 8. Souvenez-vous de cela et soyez confus, pécheurs, revenez à votre cœur. Redécouvrez qui vous êtes. Souvenez-vous des choses passées depuis longtemps. Je suis Dieu sans égal. Dieu n'a pas de pareil. Je révèle dès le commencement l'avenir, d'avance ce qui ne s'est pas encore accompli. Je dis, mon peuple tiendra. Tout ce qui me plaît, je l'exécuterai. J'appelle de l'Orient un rapace d'une terre lointaine, l'homme prédestiné. Aussitôt dit, aussitôt fait. Projet à peine formé, aussitôt exécuté. Dieu est présent dans ceux qui sont en train de sauver, même si c'est encore ambigu. Je fais approcher ma victoire, elle n'est plus loin. Mon salut ne tardera pas. Je mettrai en Sion le salut. Ma splendeur sera pour Israël. Et alors, juste à ce moment-là, lamentation sur Babylone. En bas, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Vous voyez, les villes sont toujours représentées comme un personnage féminin. Vierge, fille de Babylone. Assieds-toi, terre, détrônée, fille des Chaldéens, car on cessera de t'appeler la douce, l'exquise. Prends les meules et broie la farine. Dénoue ton voile, relève ta traîne, découvre tes jambes, passe des ruisseaux, découvre ta nudité, qu'on voit ta honte, je vais me venger et personne n'interviendra pas. Personne n'interviendra, pardon. C'est-à-dire que Babylone va devenir esclave, elle aussi, d'un tableau de l'esclavage. Ça, c'est la sinuosité de l'histoire humaine. On était vainqueur, on devient vaincu, puis on devient vainqueur. Notre Rédempteur, dont le nom est le Seigneur, Sabaoth, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence, glisse-toi dans l'ombre, fille des Chaldéens, car on cessera de t'appeler souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage. Je l'avais livré entre tes mains, mais tu t'es montré sans pitié. Sur le vieillard, tu as fait peser ton joug écrasant. Tu disais, pour toujours, je serai souveraine. Tu n'as pas considéré dans ton cœur ces événements, ni médité sur leur fin. Maintenant, écoute donc, voluptueuse, toi qui sièges en sécurité et qui te dis en ton cœur, moi, et moi seul, je ne serai jamais veuve, je ne perdrai pas mes enfants. Ces deux malheurs fondront sur toi, d'un seul coup. En un seul jour, la porte des enfants, le veuvage soudain fondront sur toi. Malgré tes nombreuses sorcelleries, la puissance de tes multiples sortilèges. Les nations sont rien. Une goutte au bord d'un seau. Un peu de poussière sur la balance. Et donc on nous raconte cette histoire, mais avec un recul. Ça c'est le prophète qui a réfléchi, qui pèse ses mots et qui voit bien la séduction idolâtre que nous suivons et la découverte de celui qui est le vrai prophète. Et c'est le serviteur. Vous avez au chapitre 49, alors, le second chant du serviteur, le serviteur qui avait été appelé, on ne savait pas qui c'était, au chapitre 42. Maintenant, il écoutait. Chapitre 49, « Soyez attentifs, peuple des plus lointains. Le Seigneur m'a appelé dès le ventre de ma mère. Dès le sein, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a caché dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Tandis que je me disais, je me suis fatigué en vain, c'est pour rien que j'ai usé mes forces. En réalité, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. » Et alors, Nous sommes au chapitre 49, 49-53. C'est la découverte de l'anéantissement, en quelque sorte, d'Israël pour une résurrection. Le salut de Dieu vient à travers la souffrance, parce que les hommes sont violents. Le salut est toujours offert. Là, c'est le chapitre 50, avec ce troisième chant du serviteur. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache répondre à l'épuisé. Il provoque une parole. Tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Quant à moi, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé en arrière, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, c'est pourquoi je ne ressens pas les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre, j'ai su que je ne serai pas confondu. Celui qui m'acquittera est proche. Qui oserait m'intenter un procès, qu'alors nous comparaissions ensemble, qui estime avoir un droit contre moi, qu'il s'approche de moi. Le Seigneur Yahvé m'aide, qui me condamnerait ? Retrouverons ça chez saint Paul. Et alors, nous assistons à la passion du serviteur. Cette passion que nous reprenons nous, le Vendredi Saint, et que les Juifs n'aiment pas tellement utiliser ce thème du serviteur souffrant, bien que Israël ait subi beaucoup de souffrances à travers toute son histoire. Parce qu'ils estiment généralement que nous avons confisqué le serviteur. Alors que c'est un personnage mouvant, fluent, nous l'avons en quelque sorte plaqué sur la personne de Jésus. Ce n'est pas faux, mais il ne faudrait pas non plus oublier le drame du serviteur Israël. Et alors nous avons, au chapitre 52-53, le quatrième chant du serviteur, que vous connaissez bien, puisqu'il est repris dans notre liturgie. Voici mon serviteur, il prospérera, s'élèvera, montera, grandira beaucoup. Mais il ne s'agit pas de grandeurs humaines, de grandeurs idolâtres. Alors que des multitudes avait été épouvanté à sa vue, tant son aspect était défiguré. Il n'avait plus d'apparence humaine. De même, les multitudes de nations s'en étonneront. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront un événement non raconté et observeront quelque chose d'inouï. Et alors, donc, c'est la passion du serviteur. Mais qui est dit en des termes, je dirais presque tellement vagues, qui ne sont pas braquées sur une figure humaine déterminée, pour qu'on puisse trouver dans ce personnage du serviteur tous les souffrants du monde. C'est à la fois une personne, chaque personne, et c'est un peuple. Et alors, donc vous connaissez bien la finale, c'est pourquoi je lui attribuerai des foules, et avec les puissants il partagera les trophées, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il supportait les fautes des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. La victime, le pauvre, le souffrant, le handicapé, celui qui est méprisé, c'est celui-là qui porte le monde. C'est déjà cela qui est présent ici. Et sans transition, début du chapitre 54, où est-ce que cela aboutit? Cri de joie, stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en cri d'allégresse, toi qui n'as pas eu de douleur, car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. C'est la résurrection de Jérusalem. C'est aussi notre résurrection. Mais en quoi consiste cette résurrection? Non pas un happy end, non pas quelque chose de nouveau et une reconstruction d'Israël plus grandiose qu'auparavant. La véritable construction, la véritable joie, c'est dans le salut que Dieu donne gratuitement. Le salut est pure gratuité. C'est cette découverte-là à laquelle arrive le prophète. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu, chapitre 54. N'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton époux, c'est ton Créateur, dont le nom est le Seigneur des armées, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, qui s'appelle le Dieu de toute la terre. La véritable résurrection est cette découverte de la filiation. Tout ce que Dieu a créé résiste à toute souffrance, parce que tout ce que Dieu a créé est présence de Dieu. Ô malheureuse battue par les vents, inconsolée, il s'agit de Jérusalem. Voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles et tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes de cristal et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur. Grand sera le bonheur de tes fils. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression, car tu ne craindras plus. Il s'agit d'un royaume intérieur. Il ne s'agit pas d'un don qui reprendrait les choses d'avant. Et nous retrouvons là très fort cette finale des chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel qui nous parle de cette Jérusalem merveilleuse, mais qui n'existe pas à l'extérieur, qui n'existe qu'à l'intérieur, dans cette présence de Dieu qui nous construit. Voilà un petit peu ce que nous trouvons, c'est pour ça que j'ai parlé la fois passée d'Ézéchiel, et maintenant ce second Isaïe, qui ne fait que approfondir encore dans l'intériorité ce qu'avait dit Ézéchiel. Voilà, nous verrons encore un peu les auteurs de la reconstruction, les prophètes de la reconstruction, comme ils appellent généralement, mais pour en découvrir aussi l'intériorité.